Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, nos vies de vacanciers. Et aujourd'hui, le camping du Perroquet, un documentaire d'Olivier Chaumel réalisé par Nathalie Battus. On a tous des souvenirs de tentes plantées en plein vent et sous la pluie, de sardines tordues qui butent sur un galet, de sacs à dos trop lourds d'emplacements maudits entre les poubelles ou les sanitaires, ou de semaines cauchemardesques à côté d'un groupe d'adolescents qui a apporté sa guitare et pas mal de cannabis. Et puis comment oublier les terrains en pente qui nous tassent au matin contre la toile humide, les réveils en sueur à Potron-Minet dans des campings andalous chauffés à blanc, des pièges à guêpes inefficaces à base de confiture de fraises et des bataillons de moustiques affamés. Et ne pas oublier la casserole d'eau qui ne bout jamais, le beurre fondu échappé du papier huilé, les colonies de fourmis et les tentes écroulées dans la nuit. Mais le camping, ça peut aussi être le paradis. Et au camping du Perroquet, c'est très exactement ça, c'est le paradis. Alors aujourd'hui, quatrième volet, il faut planter sa tente.
Longer le camping du Perroquet, c'est un voyage. Les gens, ils ont leur mobil-home qu'ils doivent avoir depuis des dizaines d'années. Peut-être même que c'est des mobil-homes, leur espoir est de les transmettre à leurs enfants, sans doute même. Ils ont aménagé ça avec des petites barrières autour. Il y en a certains où il y a des nains de jardin, des moulins, là, des moulins en plastique. C'est aménagé, c'est tondu, il y a les petits rideaux qui vont bien avec la couleur de la barrière. Voilà, c'est un voyage.
Voilà, je vous en prie. Ah, une petite information aussi, on ne prend pas les personnes majeures, mineures. Hein. Il faut avoir 18 ans révolus. D'accord. C'est-à-dire, si par exemple c'est 5 ados, ils ne peuvent pas rester sur le camping s'ils ne sont pas accompagnés des parents durant le séjour. D'accord. Ah, il n'y a aucun problème, si c'est le vôtre, c'est pas de souci. D'accord. Non, mais je préfère le dire, parce que parfois il y a des jeunes qui veulent venir et
Alors, pour aller au camping Perroquet, c'est très simple, il faut suivre jusqu'à la frontière belge. Et on est à la frontière, au lieu d'aller, de passer en Belgique, et on tourne à gauche et on est à l'entrée du camping du Perroquet. Alors, ce camping du Perroquet est divisé en plusieurs parties. Au début, lorsque vous arrivez, c'est très verdoyant. Et là, il y a ceux qui habitent le camping du Perroquet pratiquement à l'année. Ils sont là dans des mobil-homes. Alors après, vous entrez dans ce camping du Perroquet, et là, c'est le No Man's Land. Vous êtes déjà dans les dunes, la route épouse la forme des dunes. Là, il n'y a rien, il n'y a personne. Et là, vous arrivez ensuite sur une grande partie avec un grand îlot avec restaurant, etc., des sanitaires. Et là, il y a des endroits où les gens s'installent pour 6-7 mois, et d'autres qui sont là de passage. Il y en a très peu de passage, hein, parce que toutes les places sont prises et retenues longtemps à l'avance. Il y a une liste d'attente pour rentrer au camping du Perroquet. Au début, quand on y arrive, on n'a pas une bonne place. Et puis, l'année suivante, s'il y a une place qui se libère, il faut bien repérer, aller voir le patron, et puis dire, on peut s'installer là. Bon, oui, je réserve. Et voilà.
Depuis j'ai vu des paysages, aucun ne valait cette plage de brune. Rio, Venise, San Francisco, je n'ai rien vu qui soit si beau de brune. Je traversais bien des pays, mais tant que je à ma vie, je n'oublie pas cette vie.
On s'arrête là, tout le monde tire la marche là. Tout le monde tire les marches.
Thank you. Le littoral de la mer du Nord est pratiquement rectiligne, depuis Calais jusqu'aux Pays-Bas. Le camping du Perroquet se trouve vers le milieu de ce segment de côte. Il longe la frontière franco-belge, sur le territoire de la commune française de Bray-Dunes. Un grand perroquet en plastique en orne l'entrée, et les résidents du camping adoptent volontiers le perroquet en plastique comme animal fétiche. Les dunes sont sauvages. On s'y déboussole très facilement. C'est le royaume de l'Oya, du chien-dent des sables, de toute une végétation piquante et touffue, et de blocos de béton qui, tout doucement depuis la guerre, s'enfoncent dans le sable. Avant que le conservatoire du littoral en fasse l'acquisition, l'idée avait germé d'y construire un joli parking en bord de mer. Or, là vit le crapaud calamite, une exquise bête pustuleuse, vert olive, avec une raie jaune sur le dos. Le parking aurait détruit les aires de reproduction du crapaud calamite. Les protecteurs de la nature ont râlé, les promoteurs ont cédé. Le crapaud calamite se reproduit toujours dans les dunes du Perroquet. Il y a 50 ans, Angèle et François Lannoy ont acheté le terrain dunaire qui borde la frontière pour créer le camping. C'était un complet désert, long de presque 2 km, entre la route et la mer. L'endroit est vite devenu célèbre dans le nord de la France. Ce sont leurs petits-enfants aujourd'hui qui administrent l'établissement. C'est le sommet de la France, métropole et outre-mer confondus. Par 51 degrés 5 minutes nord, le camping du Perroquet est au fait, sur une carte géographique ordinaire avec le nord en haut, de notre beau pays. Plus haut, c'est la Belgique ou la mer. Bray-Dunes, le camping du Perroquet, Olivier Chaumel, Nathalie Battus.
Mamie, elle est retournée avec maman, Armentières. C'est pas loin, c'est ça qui est bien. Armentières, ici, à 60 km. Le pays de Danny Boone, enfin la ville de Danny Boone, et de Linorno.
Et de Linorno, oui. D'Étienne Leroy.
Il est d'Armentières aussi, monsieur.
Stéphane De Witt. Quand on vous a croisé dans les chemins du camping du Perroquet, vous nous expliquiez pourquoi vous aimiez cet endroit?
Ben, le camping, c'est premièrement très varié en activité. Il y a pas mal, beaucoup d'activités. Et puis en plus, il n'y a pas un mobilhome, c'est pas comme dans certains campings, tous les mobilhommes ou les caravanes en rondognon. Ici, vous voyez, il y en a dans tous les sens. Et puis c'est bien arboré. Donc c'est pour ça que c'est un puis très calme. Même s'il y a en moyenne, en pleine saison, de 4500 personnes à 5000 personnes, on est toujours pareil. On n'a pas de circulation, quoi, pour dire. Pas de voiture. On peut aller à pied à la plage. On ne doit pas sortir du camping. Ça, c'est intéressant aussi.
C'est-à-dire qu'il vous arrive de rester des jours d'affilée sans sortir du camping?
Ah oui. Ou pour aller faire des courses, évidemment. Mais en temps mort, oui, pas de problème. On a même des magasins dans le camping. Hein, vous avez tout près de la plage, il y a des magasins. Des alimentations, quoi, je veux dire. Et à la sortie du camping aussi. On a deux restaurants. Un tout de suite à l'entrée, là. Et un sur au niveau plage, quoi.
Le restaurant de l'entrée, il est en Belgique, non?
Il est en Belgique, oui. Par contre, le camping, on est en France.
Ah.
C'est ce qui fait le charme aussi, quoi. Puis on est auprès de la panne. C'est très intéressant. Et aussi, la bière, toutes les pompes en Belgique, c'est toute la bière belge. C'est moins cher, beaucoup moins cher. Ça aussi, les Français apprécient.
Ouais. Mais donc c'est vraiment la frontière, là, vous voyez. Là, c'est la frontière tout le long.
Ouais, toute droite.
Hein. Oui. Ah oui, ils ont bien coupé. Heureusement qu'on n'avait pas mis le mobilhome un peu plus loin, sans quoi il aurait fallu le reculer. Alors, je sais pas si vous voyez l'engin. Et le poids qu'il fait. Parce que c'est pas évident, hein. C'est mobilhome par mont, c'est tout. Mais après, on sait plus le bouger.
Bon, c'est toujours les bouger. Hein.
Oui, on sait toujours les bouger. Mais enfin, heureusement qu'on n'a pas dû le bouger. Parce que quand ils ont fait la... Parce qu'il n'y a que quelques années que la frontière, que c'est coupé là. Hein. Avant, c'était libre, on passait comme on voulait. C'était pas barricadé, quoi. On passait... On y allait comme on voulait. Et puis tout le monde entrait dans ce camp, bon ou pas bon...
Depuis les
dunes. Depuis la Belgique, ben bien sûr. C'est un fait que si vous voulez rentrer, vous rentrez par la plage quand même. Ça, il n'y a aucun problème. Mais enfin, là, couramment, là, on est vraiment tranquille, on est... Dans notre petit coin, c'est le paradis.
Comment est-ce que vous vous occupez?
Ben, moi personnellement, on va se balader à la plage. Au matin, en saison, j'ai fait du tir à l'arc. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait du tir à l'arc. Je me suis baladé en vélo dans le camp. J'ai joué de la trompette. J'ai regardé le Tour de France. Après, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé au sauna. Au sauna. Ben, ce soir, j'irai peut-être boire une bonne bière. Et puis, bon, ben, j'ai mes deux beaux-frères qui sont dans le camp à 100 mètres. Donc, en général, au soir, ben, on se retrouve autour d'un petit rosé, quoi. C'est ça qui fait aussi l'attrait du camping. Quoi. Enfin, c'est camping résidentiel, comme on peut appeler. Hein. Moi, je pense, parce que c'est plus le camping avec les tentes et les caravanes. Et il y a de moins en moins de caravanes, hein, pour ainsi dire. Il n'y a presque plus de caravanes ici. Hein.
La première fois que vous êtes venue ici, Catherine Bourron, c'était quand?
Alors, c'était avec mes parents. Alors, l'année, je ne sais pas exactement, mais il y a plus de... Il y a plus de 45 ans, oui, même plus de 50 ans, je dirais. Donc, en fait, on venait ici vraiment en camping sauvage au départ, parce qu'il n'y avait absolument rien.
Avant que le camping n'existe.
Avant que le camping n'existe, oui. Et en fait, c'était la route qui avait été faite par les Allemands, avec les traverses de trains qui avaient été montées pour accéder à la plage, puisque c'était que des dunes. Et donc, on a emprunté ces premières routes pour aller jusqu'à la plage où là, effectivement, comme il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien, vous étiez vraiment dans la nature et on vivait dans la nature. Donc voilà, chacun se regroupait malgré tout, mais chacun avait son petit coin pour ses toilettes personnelles dans la nature. Et puis, ça se passait comme ça. Et on avait malgré tout, on commençait à faire déjà de la voile. Je pense qu'on a été les premiers à faire de la planche à voile ici au Perroquet. Les premières planches, les gros paquebots, là, les grosses dufours. Et puis bon, j'ai appris à mes enfants à faire de la planche. Maintenant, c'est bientôt eux qui vont aller me chercher en mer, mais bon. C'est ça qui est bien, quoi.
Et qu'est-ce qui vous attirait ici, précisément?
La mer et la voile, le bateau, l'eau. C'était la première base nautique qui s'est créée ici, avec le Touring Club. On a commencé par les petits vauriens. Et puis après, les 4-20, les 4-7, les catamarans, et maintenant les plus gros. Mais c'est sûr qu'on fait partie des premiers quand même. On a vu toute l'évolution. Donc j'ai eu mes enfants. Bah, d'ailleurs, mon deuxième, si vous voulez, je me suis inscrite ici à Malo, pour comme il devait naître au mois d'août, je me suis inscrite ici à Malo pour l'avoir ici. Je suis revenue au bout des 5 jours, je suis revenue dans ma petite caravane, où là, effectivement, il n'y avait pas de confort. Il n'y avait pas d'eau, pas
avec
de toilette.
Avec votre bébé.
Avec le bébé de 5 jours. Voilà. Et donc, c'est un Malouin.
De Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque.
Exactement.
À Dunkerque.
Voilà.
Dans son numéro d'août 1926, la revue du Touring Club de France consacrait un article à la luxueuse maison roulante de Raymond Roussel, le génie perturbé de Locus Solus et d'Impression d'Afrique, qui avait préfiguré le mobilhome contemporain. En préambule, l'article distinguait deux sortes de campeurs, les Spartiates et les Sybarites. Je cite la revue. Les Spartiates, ce sont ceux qui s'en vont, soit à pied, soit à bicyclette, en emportant leur maison sur le dos, une maison de toile qui ne pèse pas 10 kilos avec tout son mobilier. Ce sont les valeureux, les vaillants du camping. Les Sybarites, au contraire, ce sont ceux qui font porter leur maison par un véhicule automobile. Et cette maison, ils la veulent bien entendu aussi confortable que possible. Ils entendent retrouver en plein bois ou en plein champ les douceurs et les avantages du home familier. Il semblerait qu'il y ait de nos jours, au camping du Perroquet, nettement plus de Sybarites que de Spartiates. La villa roulante de Raymond Roussel lui avait coûté 400 000 francs or. C'est beaucoup moins cher au Perroquet. Retour à Bredune.
Vous pouvez nous planter le décor, Christian Deleuil ? On est à Bredune.
Eh oui, Bredune, c'est une ville double en somme, hein, comme certains fruits quand on les ouvre. Il y en a deux à l'intérieur. Et il y a l'ancienne ville qui existe toujours, qui est beaucoup plus en retrait. Ici, ils appellent ça Bredune Centre. Et puis après, il y a Bredune Plage. Bredune Plage, c'est là où on est, au bord de la mer. C'est la dernière station française avant la frontière belge. Et la ville balnéaire qu'on voit là-bas, c'est une station qui s'appelle La Panne. Et alors, il y a une petite tradition ici aussi que beaucoup de gens ont l'occasion de faire, c'est d'aller se promener à La Panne en passant par la plage. C'est une balade, une petite randonnée pédestre. Alors, le but, c'est d'aller boire une chope ou de manger une moule frite. C'est un petit peu la carotte qui fait avancer les gens. Et puis, après, retour à Bray-Dunes et ça fait une après-midi ou une matinée bien remplie, quoi. Puis ça fait du bien, quoi. C'est vrai que ça permet de respirer le bon air. Puis, alors, l'avantage, c'est que l'ambiance, en général, n'est pas du tout la même selon qu'on part ou selon qu'on revient, parce que pendant qu'on marche, la mer, elle se retire, soit elle remonte. Alors, du coup, on n'est pas tout à fait dans le même décor. Et ici, ça change beaucoup, parce que la mer, quand elle se retire, elle va très très loin. Ça arrive quelquefois, on ne la voit même plus.
Sandrine Rousseau, j'ai lu de vous un roman policier intitulé « Qu'est-ce qui fait pleurer les flics ?» et sous-titré « Un scorpion à Bray-Dunes ». Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de placer une intrigue policière sur cette côte-là ?
Mais parce que c'est une côte que j'aime énormément. J'ai trouvé ça assez exotique en fait quand je suis arrivée. La première fois que je suis venue, c'était en juillet, le week-end du 14 juillet. Et alors, je suis arrivée, j'avais l'impression de revivre les premiers congés payés en 36, avec des espèces de masses de gens qui arrivent, avec la joie des premiers congés, enfin, en famille, en masse. Et ça a un côté, vraiment, vraiment marrant, quoi. Ça donne une ambiance très particulière. C'est vraiment les ouvriers, quoi, qui viennent prendre leur... C'est leur premier bain de mer de l'année, ça sent. Ils viennent avec les pique-niques, ils restent toute la journée, ils en profitent le maximum, ils sont là. Et puis, il y a de la joie, une vraie joie. On sent que c'est un espèce de rituel chaque année. Ils viennent à Bray-Dunes. Ça marque le début de l'été, quoi, pour eux. En plus, il y a des dispositifs ici qui sont les TGV Terre-Mer à 1 euro. Donc, en fait, il y a plein de gens qui viennent comme ça pour le week-end pour 1 euro.
Depuis Lille,
oui. Et oui, mais ces week-ends-là, c'est des week-ends vraiment impressionnants. Vraiment impressionnants. Et puis alors, ce qui m'a fascinée aussi sur Bray-Dunes, quand on est à Bray-Dunes, donc on regarde vers la Belgique, il y a La Panne, puis quand on se retourne de l'autre côté, il y a Dunkerque, et quand il fait beau, on voit la zone industrielle de Dunkerque, qui est quand même une des zones les plus industrielles qui soit. Il y a je ne sais pas combien de zones Céveso là-bas, on voit en permanence des fumées qui sortent.
Des fumées de très jolies couleurs.
Oui.
C'est vrai.
Oui. Et ça, c'est pareil, ça a un charme. Et quand je dis c'est les congés en 36, c'est les premiers congés payés, ici, il y a un espèce de vieux Roland du début du XXe siècle où on voit quand même les usines dans lesquelles les gens bossent. Et puis, on voit la plage à côté et on voit qu'il y a l'espace du travail, il y a l'espace des vacances. Et tout ça est très présent en permanence. Et en fait, j'ai compris qu'ici, quand on voyait les usines de Dunkerque, c'était une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire qu'il faisait beau, et que du coup, on allait avoir un bon week-end. Donc en fait, le fait de voir les fumées et les usines, c'était interprété comme quelque chose de bien.
Mais c'est objectivement féerique, la grosse industrie, le port de Dunkerque.
Oui, oui, il y a un côté féerique, oui, il y a un côté Fernand Léger aussi, avec ses tableaux. Voilà, c'est particulier, je sais pas comment le dire autrement, c'est particulier.
Populaire n'est pas synonyme de pauvre. Bray-Dunes et le camping du Perroquet accueillent le bon peuple du Nord et du Pas-de-Calais, toutes classes confondues, ainsi que quelques Belges, Britanniques, Allemands, Néerlandais. Un véhicule immatriculé dans les Alpes-Maritimes circule dans les allées du camping. Son conducteur a dû s'égarer lisant la carte à l'envers. Christian Deleuil est cinéaste. Il vient d'une petite ville minière du Nord. Il a fréquenté la côte d'Opale depuis toujours. À l'été 1998, il avait posé ses caméras au bord de la mer du Nord pour son film « Bray-Dunes et nulle part ailleurs ». Il s'y sent bien. Il pose sur le lieu et sa population un regard très affectueux. Christian Deleuil.
Bray-Dunes, moi je sais, beaucoup de gens sont au courant. Il ne faut pas avoir fait beaucoup de recherches pour le savoir. Mais moi je sais que ça vient du nom d'un médecin. Le docteur Bray. Hein, voilà, donc, j'allais dire docteur Bray. Alphonse Bray, vous savez encore mieux que moi.
Le bienfaiteur de la ville.
Voilà, hein, une sorte de, Voilà, on parlait beaucoup de paternalisme à l'époque, hein. Je pense que c'est un peu né un peu de tout ça. Hein. Bon, puis ça s'est produit tout le long de la côte. Hein, tout le long de la côte, il y a eu comme ça des sortes de promoteurs qui ont voulu créer des stations balnéaires parce que c'est une mode qui venait de l'autre côté de la mer du Nord, hein, et de l'autre côté de la Manche pour le Pas-de-Calais. Alors ça se faisait beaucoup. Il y a même...
Dans un but hygiéniste, beaucoup.
Oui, il y avait un peu de ça. Puis il y avait aussi un peu de vouloir se retrouver entre soi. Pour les gens qui étaient aisés avaient envie d'avoir un lieu de villégiature où ils se retrouvaient entre eux. Et puis pour les autres, effectivement, c'était de donner aux ouvriers, à leur famille, un endroit pour se reposer, pour, comme dirait l'autre, reconstituer leur force de travail. Et voilà, il y avait un peu de ça, hein, c'est vrai. Donc voilà, c'est venu comme ça, sans doute, cette envie de créer une station balnéaire à Bray-Dunes. Et il en reste peut-être ouais, quelques traces un petit peu chic, on va dire. quelques petites traces chic qui témoignent d'un passé qui a été un peu plus bourgeois, on va dire. Hein, alors qu'après, voilà, le Front Populaire est arrivé, les congés payés. Ouais, alors forcément, avec ce changement, Bray-Dunes, c'est devenu une station balnéaire populaire. Voilà.
Alors pour l'instant, on va s'asseoir 2 minutes. Si vous avez un pull, prenez-le.
Vous vous rappelez de comment vous avez fait connaissance avec cet endroit, Jean-Pierre Mortagne?
Ah, j'étais très très jeune. Je pensais pas d'ailleurs à ce moment-là que un jour j'irais installer la caravane au camping du Perroquet. Je suis un enfant de l'après-guerre. Et donc, dans les années 52, j'allais justement avec la famille, mes parents, mes grands-parents, cousins, cousines, oncles et tantes, on allait en bus, donc pour passer cette fameuse journée à la mer. On louait là-bas une tente, hein, une petite tente avec le chapeau pointu, on l'appelait comme ça, hein, c'est toute petite tente pour se changer, et... Un peu plus âgé, j'étais avec mes grands-parents, on partait en vacances, mais on ne partait pas en vacances en France, on allait à La Panne. La Panne, c'était un petit peu plus chic. Hein. La Panne, c'est...
Et puis c'est tout de suite plus exotique de l'autre côté de la frontière.
Exactement, exactement, c'est plus exotique. Et donc, tout naturellement, après quelques années... j'ai voulu retourner à La Panne, mais c'était un petit peu au-dessus de mes moyens pour mettre la caravane, justement, à La Panne, et je me suis rabattu vers la France.
Au Perroquet.
Au Perroquet. Alors, le Perroquet, pourquoi? Parce que le Perroquet est à la frontière. Et pour aller à La Panne, par la plage, il y a 3 kilomètres. Donc, on allait à La Panne, à pied.
Sur le sable.
Sur le sable. C'est vrai que c'est une très grande plage. C'était aussi la plage des contrebandiers, hein, là où on passait le tabac. Lorsque le tabac était beaucoup moins cher en Belgique qu'en France, les douanes se cachaient dans cette dune-là.
Vous entendez les crapauds un peu le soir?
Pas tellement.
Pas tellement les crapauds. Avant, je parle toujours d'avant, bien sûr. Avant que c'était pareil là, avant qu'il y avait les chevaux, ils passaient des faisans et tout ça. Sur le terrain, on avait des faisans et ils n'avaient pas peur. Ben, premièrement, les nourrissaient. Alors, c'était peut-être pas très malin parce que c'est pas très intelligent de donner du pain à des faisans. Mais comme
ils. C'était bon, mais encore qu'il était raisonnable.
Oui, mais un peu à la fois, comme les voisins savaient qu'on en donnait, on vous rapportait les baguettes et on donnait. Et ils mangeaient. Et en fin de saison, le gros faisan, il a fait une crise de goutte, il boitait, parce qu'il mangeait trop de pain. C'est pas leur nourriture.
Ça tape la goutte, c'est l'acide urique.
Et par un pharmacien, la sucre,
gens,
c'était
exactement comme les gens. Hein.
Donc, les faisans avaient la goutte aussi.
Ils ont fait marcher, ils tombent sur leurs pattes.
Ah, on en apprend tous les jours. Hein.
Vous voyez, hein.
Ah ouais. Oui, mais c'était bien plus... Avant, c'était de la dune. Il y a de l'herbe qui pousse un peu partout.
Tout y pousse ici.
Trop bien.
Vous venez de...
De Croix, à côté de Roubaix. Alors, toutes les semaines, on retourne. Mais ça fait une promenade, quoi. Il y a combien, 73
kilomètres? 74.
74 kilomètres, c'est pas là une affaire. Puis on connaît bien la route, la voiture, elle va tout seule. Elle sait où elle va. Donc, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on est resté ici l'été, puisqu'après, on venait avec maman.
Il y a presque 40 ans qu'on est ici.
On vient ici l'été.
On vit ici depuis 70. Et on est attitré ici depuis 72.
Oui, on avait des amis au début. On campait. Et puis après, bon, on a eu une caravane. Et ensuite, en quelle année on a acheté le mobilhome?
83.
83. On a acheté ce mobilhome. Ça a été un coup de cœur. C'était un mobilhome.
Mais c'est mort là-bas.
Bah, ensuite, tu as fait des histoires. Il n'y avait rien dedans. On a nous-mêmes arrangé tout ça. On a fait les sièges, on a bougé une cloison pour avoir une chambre plus large, et puis voilà. Et puis on s'est installé, mais depuis notre petite maison, bah, on l'aime bien comme elle est. Il y en a de très jolies, vous en voyez des magnifiques maintenant, mais nous, la nôtre nous convient très bien, puis c'est la nôtre.
Et vous l'avez posée ici en 1983 ?
Oui.
En mobilhome, madame. Alors, ce sont nos propriétaires qui louent, madame. Nous ne sommes pas propriétaires des mobilhomes. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait nous envoyer une enveloppe
à votre adresse afin de vous donner la liste.
Donc, cela dit, pour l'instant, au niveau des disponibilités, c'est largement complet, on va dire, pour juillet et août.
Je me demandais, est-ce qu'on peut encore appeler ça du camping, étant donné le niveau de confort qu'on atteint dans ce genre d'habitation?
Bah, c'est quand même du camping, vous avez quand même tout ce qu'il faut autour, si vous voulez. Vous avez quand même les clubs, vous avez le club, vous avez toute l'animation qu'il faut, vous avez les douches, les toilettes extérieures. Et c'est sûr que si vous voulez, vu le confort qu'on a, il y a beaucoup moins d'ambiance qu'il n'y en avait avant, puisque les gens se retrouvaient le matin à faire la queue aux douches, donc ça parlait d'une douche à l'autre. Donc il y a beaucoup, ça enlève un peu d'ambiance d'un camp, mais vous avez quand même l'animation, vous avez tout ce qu'il faut à la base nautique. Donc où il y a quand même vous avez pour les enfants, vous avez sauna, vous avez tennis. En fait, c'est comme un club. Bon, nous, on est tout un groupe de copains, donc on s'en va faire des grandes balades en vélo, en bateau. On fait des tas de choses. On reste pas cloisonné à regarder la télévision le soir. On peut encore. On voit qu'il y a, bon, le coucher de soleil se met sur la plage. Et ben, on file sur la plage et puis on voilà. On va voir les feux d'artifice. On passe par la plage. On prend notre vélo. On va faire nos courses par la plage.
Vous allez faire vos courses à Bray-Dunes ou à La Panne ?
Soit à Bray-Dunes, soit à La Panne, tout dépend de ce qu'on recherche. Donc, c'est l'avantage d'être un petit peu au milieu et d'être tranquille sur les plages, puisque personne ne vient jusqu'ici, personne ne vient avec tout son barda, ses glacières et à 2,5 km d'une ville, quoi. Donc on a l'avantage, quand il fait très beau, d'avoir une plage pour nous pratiquement privée. Même si elle ne l'est pas, elle est pratiquement privée.
Oui, parce qu'il faut décrire géographiquement les choses. En allant vers le nord-est, vers la Belgique,
oui.
Il y a une étendue de 2 km et quelques...
2 km de 7 à peu près.
De l'autre dunes, côté 2 km, sauvages.
Oui, et de l'autre côté 2 km, 102 km 2. Je le sais puisque je fais souvent mon jogging d'un côté ou d'un autre. Donc c'est plus long d'aller un petit peu à La Panne, mais on est pratiquement au milieu.
Il faut savoir une chose importante. Pourquoi les gens allaient au perroquet plutôt qu'ailleurs ? Le fait que l'on soit près de la frontière, eh bien, ça permettait aux gens d'aller faire le plein. Le plein d'essence, parce que à l'époque, c'était nettement moins cher qu'en France. Nettement moins cher. Plein de cigarettes. Et puis, on allait chercher son litre de martini, qui était d'ailleurs des litres et demi en Belgique. Mais le litre et demi était encore deux fois moins cher que le litre en France, son litre de Ricard, litre et demi également. Et donc, les gens allaient chercher leur tabac, leur cigarette, leur essence, leur alcool, leur chocolat, en allant au perroquet. C'était joindre l'utile à l'agréable. Et c'était très avantageux d'aller au perroquet. Parce que, au perroquet, vous êtes dans la zone franche. Et donc, à l'époque, c'était quand même très vérifié, hein, très surveillé. On ne pouvait pas passer de l'alcool et puis des cigarettes comme ça. Donc, hop, vous rentrez là dans la zone franche, au perroquet. Personne ne vous disait rien.
Parce que l'entrée du camping se trouve entre les anciens postes belges et français.
Voilà, exactement.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
On passait combien de temps au perroquet par an ? À peu près, mi bout à bout, Joël Sand.
Oh bah... Maintenant que je suis en retraite, je passe bien 3 mois et demi. Quand en juillet ou complet, les vacances de Pâques, À Noël, ça nous arrive de faire réveillon aussi, parce que la maison de la dune est ouverte et on fait des réveillons tous ensemble, ici, ou à la dune, ou à l'entrée du camping. On peut y rester longtemps. Hein. On n'a pas le droit d'y être toute l'année, hein, ça c'est sûr.
Pourquoi ?
Je sais pas, c'est d'une loi qui dit ça, je crois qu'il faut... On ne peut pas habiter le camping, il faut avoir une adresse postale ailleurs.
Parce que ça pourrait être tentant quand on n'a pas beaucoup d'argent. Finalement, ça revient à 300 euros par mois sur une période de 20 ans.
Mais c'est pas autorisé par la loi. On ne paye pas d'impôts locaux. Hein, à part globalement pour le camping, mais personnellement, ça ne peut pas être une adresse postale.
Tout ça est une histoire de taxes.
Certainement. Hein, parce que ce serait habitable.
C'est extrêmement paisible et sans problème, cet endroit.
Oui. Oui, on ne connaît pas de problème. Il y a eu peut-être un peu de vandalisme l'hiver, mais pas tous les ans. Il y a eu quelques petits problèmes, mais pendant la saison, absolument rien. Je pars toujours, ma porte est ouverte, on connaît tout le monde fait attention à son voisin. On se sent très à l'aise ici. Hein.
J'ai fait monter le mobilhome pour que je puisse avoir vue sur la mer.
Vous avez surélevé un peu ?
J'ai demandé, oui, pour pouvoir profiter de cette vue-là, qui est quand même exceptionnelle, avec le coucher de soleil le soir juste en face. C'est génial.
On est vers l'ouest à peu près.
Oui, c'est ça. Juste l'ouest, là, coucher du soleil. Jamais le même d'ailleurs, chaque soir. C'est jamais le même. Moi j'aime beaucoup ça, c'est reposant, c'est bien.
Et vous passez beaucoup de temps dans l'année au perroquet ?
Ben, surtout
tout au moins, vous y venez en toute saison ?
Oui, c'est ça, oui. Même hors saison, ça m'est arrivé de venir en octobre, de faire un tour en décembre. Vraiment, on a tout pour nous, quoi. Je me suis baladé, je me souviens, le mois d'octobre l'année dernière. J'étais au bord de l'eau. Il n'y a personne, que des chevaux qui passaient, personne. C'est génial, quoi. Et ça fait du bien. Franchement, c'est vivifiant. Le fait aussi que à une heure de route de Roubaix, on a envie de venir, on y est vite, et on sent nettement la différence d'oxygène, quoi, de pollution. C'est incroyable. On sort de la voiture ici, ouah, que ça soit en pleine saison, et encore mieux hors saison. On a vraiment cette bouffée d'oxygène iodé qui donne du tonus, hein, ça c'est sûr. Et puis, bousculé par rien, pas d'enfants qui crient ou qui courent, c'est vraiment une notion de calme qui est très très forte le jour comme la nuit.
Solitude aussi.
Oui, ça fait du bien, je crois que solitude voulue, c'est pas une solitude qui nous tombe dessus comme ça, c'est une solitude qui fait que, bon, on peut prendre un bouquin après, on peut se balader, ça fait du bien. Quoi. Franchement, moi j'ai toujours remarqué que la mer du Nord, on récupère très très vite. Quand on est fatigué, on vient ici, on récupère très vite, et c'est un peu aussi pour ça que hors saison, c'est encore mieux. Et puis quand la solitude nous étouffe, eh bien, on reprend la route et une heure après on est chez nous. Donc c'est ça qui est bien. Quoi.
On fait à manger comme à la maison. Alors on a mangé, après c'est la sieste, ça c'est sacré.
Des petites siestes, 80 minutes, pas des grandes siestes.
Oui, tu dures une demi-heure aussi. Enfin, oui, selon. Après, si je veux qu'il m'aide, enfin non, je veux pas, il veut m'aider à essuyer la vaisselle. Donc il dit, tu le fais avant 3h moins le quart. Parce qu'à 3h moins le quart, c'est la belote. Donc je fais ma vaisselle à 2h30 pour qu'il puisse me l'essuyer. Après, je tourne encore un peu. Après, je rencontre mon ami. Et puis on va marcher le plus souvent possible le long de la plage. On va jusqu'au Bré-Dune, on revient. Ça nous fait à peu près, je ne sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure de marche, Lucienne.
Une petite heure.
Une petite heure, hein. Oui. Et puis on revient. Donc un petit thé après, et après un rami.
On peut vous offrir quelque chose ?
Après, on pense à souper, à faire le repas du soir. Parce que c'est très important de manger pour nous. C'est ce qui nous reste le plus, oui. À notre âge, n'est-ce pas? Et puis...
Vous avez quel âge, si je peux me permettre?
82, 79. Alors, bientôt 80. Hein, ah. Bon, enfin, donc l'air de Bredin, vous voyez que ça conserve bien, hein, quand
ça
même.
Ça a l'air d'être bien,
oui. Oui, il ne faut pas se plaindre. Hein. C'est quand même très calme. Enfin, pour nous, c'est pas gênant, là, qu'on aime bien le calme. Et quand il n'y a personne, quand on ne sait pas quoi faire, on trouve toujours à faire. On fait un petit Scrabble, on lit, on... Enfin, moi, je n'aime pas lire. Il n'aime pas le jeu au Scrabble, je joue tout seul. Et je gagne.
Ah oui. Bah oui.
Non, je ne gagne pas parce que je joue pour la droite ou pour la gauche. Et comme je ne suis pas plus dans le jeu pour la droite que pour la gauche, et je n'aide pas, alors j'ai mon jeu, je prends mon jeu. Et même si je vois que je pourrais le mettre là, je ne le fais pas. Je fais pour celui qui joue. Alors, je dessine un petit peu, mais ça, un petit peu. Hein.
Il y a beaucoup d'occupations, celui qui veut ici.
Vous savez, on a besoin de calme quand même. La vie, elle est trop folle. Et ici, bon,
on est à l'abri.
Ah oui, mais c'est ça.
Mais ça, vous êtes dans le calme.
C'est ça. Et moi, ça me fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est un fait, je suis pas contre.
Vous avez quelque chose avec moi? J'ai de la baisse, du ricard, j'ai du whisky, j'ai de l'eau,
j'ai du vin.
J'ai du muscat, j'ai quand même. Ici, on a quand même des petits cafés, hein, ici.
Qu'est-ce que vous voulez une praline?
Bah, je prends une bière plutôt.
Pourquoi vous ne prenez pas de ricard maintenant? Pourquoi il y en a, hein?
Je te laisse ça, vas-y, hein?
À votre bonne santé.
À votre santé, à tous.
Que bien nous fasse. Hein. Mais dans une maison, vous savez, quand il y a un homme qui boit, c'est déjà bien, une femme ne doit pas boire.
Ça a pas mal changé d'allure, le camping du perroquet, depuis 70.
Énormément. Tous ces mobilhommes, il n'y en avait pas. C'était des caravanes ou des tentes. Mais posées par-ci, par-là. Nos enfants se sont connus ici. On a notre fils. Hein, elle a connu sa femme ici, qui campait ici aussi. Et maintenant, ils sont grands-parents. On est arrière-grands-parents d'un petit-fils qui vient du perroquet. Oui, mon petit bonhomme, là. Ouais. Il est là, mon petit bonhomme.
Ouais. Ça n'intéresse pas les gens. Hein,
il est là, mon petit bonhomme. C'est notre arrière-petit-fils. Et les grands-parents se sont connus au perroquet. Ah ouais. Ça fait... C'est pas comme un autre lieu de vacances. C'est comme une deuxième maison, c'est notre maison d'été.
Puis vous avez la paix, vous êtes tranquille.
Et on est tranquille, on est bien.
Puis vous êtes toujours dans la végétation.
Et on a très longtemps eu maman avec nous. Hein, maman,
y compris à Bredin.
Ici, elle avait sa petite chambre là. On l'emmenait avec nous. Et c'est ici qu'elle adorait venir ici. Elle bougeait pas, elle marchait pas. Mais elle est assise là où mon amie est assise, et c'est pour ça que j'avais mis des fleurs là, devant elle.
Ça vous arrive de venir l'hiver? Ça doit être un peu particulier, non?
Bah non, vous avez du chauffage, vous êtes tout aussi. Hein.
On a quand même le chauffage, on a un bon chauffage, hein, il va bien. Hein.
Bon, nous on commence vers les rameaux.
Avant Pâques,
la semaine d'avant Pâques. Après Pâques, bon. Donc il y a toujours des gens, mais il y a de plus ou moins de monde, ça dépend le temps, quoi. Et l'hiver, on sait venir un dimanche matin. De la semaine, on fait un tour, quoi, jusqu'ici.
Et puis, il connaît un tas de Bredinois et un tas de noix, hein, parce que... Il n'y a pas que dans le camp qui est connu, hein. Mais... Jules est assez connu, n'est-ce pas?
Il y en a beaucoup.
Oui, ça, c'est énorme.
Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est obligé, hein. Vous êtes toujours quelque part.
Il y a un côté populaire et amical.
Oui.
Assez typique du Nord, tout de même.
Oui.
Oui, malgré tout. Et puis lui, il va au-devant de tout le monde. Il dirait bonjour à un chien habillé. Même s'il n'est pas habillé, il dit bonjour.
Les frères chassés, ça va?
Et puis d'une année à l'autre, on retrouve. On est content de retrouver les gens d'une année à l'autre. Malheureusement, il y en a qui nous quittent, son mari.
Ah, c'est
son mari, on en a perdu 3 en suivant là. Ça, c'est assez dur, mais c'est la vie.
Des habitués du perroquet comme vous?
Des amis. Des vrais amis. Il y a combien d'années qu'on se rassemble, Lucienne? à la mer. Alors, ouais. En ville, on ne se voit pas tellement.
Non.
Mais il y a bien... Il y a une bonne vingtaine d'années que tous les après-midi, quand on est ensemble, on va... Et on n'a jamais eu le moindre problème.
À force d'y être, j'ai presque l'impression, du fait qu'il n'y a pas d'animosité entre les gens, que la quiétude est là, que le camping du Perroquet, c'est une espèce d'utopie sociale.
Le camping du Perroquet est en avance sur le temps. Tout ce qu'on perd à 300 à l'heure dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que le bonjour, eh bien ici, on se dit tous bonjour, on se serre la main, il y a une convivialité qui est forte, et je pense...
Qui n'est pas inventée, qui est réelle.
Ah oui, tout à fait, tout s'arrange forcément. Donc, c'est à mon avis le mode du camping qui permet ça. Camping, c'est peut-être pas le mot, j'allais dire un village de mobilhomme dans la nature, au bord de mer. Voilà, c'est plutôt ça maintenant.
La mer est basse à cette heure exacte, Jean-Pierre Mercier.
Oui, tout à fait, oui.
Et
elle est très très loin, effectivement, et c'est l'heure de la pêche aux crevettes. Pour les habitués, à marée basse, ils prennent des grands filets et puis ils vont chercher des bonnes crevettes toutes fraîches. Là. Et ça nous donne l'occasion de faire des grandes promenades jusque-là en traversant les bâches. Et donc c'est un espace immense, absolument immense. Voilà. Et le vent ne nous fait pas peur. C'est vrai qu'il y a une ressource là. C'est le cadre qui nous amène à faire ça. C'est comme un jardinier qui aime bien son jardin et qui a du boulot, mais qui pendant ce temps-là libère son esprit. C'est un peu la même chose. Ici, c'est l'occasion.
Alors, on va faire un petit quiz musical, apparemment. Vous êtes fort en musique ?
Oui !
Ne dites pas oui, il n'y a personne qui sait répondre aux questions.
Oh non, moi je sais pas.
Et puis ça a un vrai charme.
Oui, ça a son charme. Bon, les dunes aussi ont leur charme. Hein,
c'est même assez mystérieux, parce qu'elles sont grandes, vastes, impénétrables à certains endroits.
C'est vrai qu'il y a des endroits, je crois un arbuste s'appelle l'Argousier, qui est plein de piquants. Et alors là, il n'est pas question de vouloir passer, on serait vraiment blessé. Il y avait aussi dans les dunes des zones où c'était marqué interdit, danger, bombe ou mine, parce qu'il y avait aussi des restes de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, à Bray-Dunes. Alors, je ne sais pas où ils en sont avec ça, mais à l'époque où j'avais filmé, en tout cas, il y avait encore des blocos, des vieux blocos, qui servent souvent d'ailleurs de lieu de rendez-vous pour les jeunes. Ils viennent passer des soirées là. Bon, c'est des repères. Les blocos, c'est des repères. Alors, il y a des stations balnéaires qui font sauter les blocos, les font détruire. C'est pas évident parce que c'est costaud quand même. Et en plus, en général, on préfère attendre que la nature fasse le travail, parce que la mer vient ronger le pied des dunes, et les blocos finissent par s'ensevelir d'eux-mêmes. Ils disparaissent, on les voit disparaître. À un moment donné, on ne voit plus que le haut du blocos, puis un jour, on ne voit plus rien du tout. Hein, donc c'est absorbé, c'est mangé par la plage. Et c'est vrai qu'il y a souvent, comme ça, des vestiges de la Deuxième Guerre, des mines, des bombes. À Berck, je me souviens aussi d'un endroit où il y avait encore des pieux de Rommel, ceux qui étaient restés enfoncés. C'est tellement enfoncé profond que c'est pareil, c'est pas évident de les enlever. Quoi.
Ici, j'ai un vent de mer. Hein. C'est un vent de nord-ouest. Là,
nord-ouest.
Hein. Ah ouais.
Je suis content d'être
ouais. Nord-ouest.
Ah non.
Vous avez appris à naviguer ici ?
Ici, oui. Il y avait déjà des moniteurs de voile. Et maintenant, c'est bien, bien, bien amélioré. On a deux moniteurs, un pour la voile, un pour le char à voile. Beaucoup de kitesurf ici qui se fait aussi. Et beaucoup de pêche.
Vous êtes sorti ce matin ?
Non. Ici, c'était vraiment trop... Ça bougeait un peu trop. Hein. C'est vraiment... Il y a des moutons, là. Les 14 sont sortis. Les 4 hommes et les pêcheurs, non. Même les gars qui mettent leur filet, non, pas sorti ce matin, c'est trop... Ça bougeait trop.
Mais la mer, c'est un peu dangereux.
Ah, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est imprévisible. Je sais que j'ai manqué de me noyer deux fois avec mon bateau, bêtement.
Seul
un concours de pêche où on était 7-8 bateaux à côté de l'un à l'autre. Et à un moment, j'étais ancré, mon bateau dérivait, j'ai voulu enlever la corde pour en mettre plus. Et puis je me suis aperçu qu'elle n'était pas attachée au bateau. J'ai attrapé le bout et l'ancre m'a emmené. Bon, puis tombé à l'eau, j'ai nagé, ça me faisait pas, j'avais une bonne combinaison. Mais entre-temps, mon bateau dérivait de l'autre côté. Et des gosses sont venus me rechercher, tout juste. Ça, c'est super. Je ne vais plus seul en bateau maintenant. J'avais l'habitude de partir seul, puis maintenant, je fais attention de partir avec quelqu'un.
On m'a parlé d'un endroit qui est au large de l'Effrincook, donc un peu à l'ouest d'ici, qui s'appelle le banc Hills ou l'île aux phoques.
L'île aux phoques, oui. Oui, ben on y va souvent. On y va à marée basse, bien sûr, hein, mais il est très grand. C'est un point zéro sur la mer, en pleine mer, à peu près à 1 000 des côtes. Et donc tout le temps de l'étal, il se dégage, mais sur 700-800 mètres, hein, c'est immense. Hein. Donc on essaie d'y arriver juste avant que la mer soit étale. Et puis après, la mer se retire. Et là, ça monte. On a le temps de faire un barbecue. On a le temps de 2 heures, quoi. Et en pleine mer. Quand on y va, on voit des phoques autour. Ils ne viennent pas sur l'île. Elles ne se redécouvrent pas tous les jours. Hein, c'est aux grandes marées.
Et vous en voyez à chaque fois ?
Ah oui, oui, oui. Ah oui, ils sont là. Les phoques sont là. Sur la plage aussi, on en voit quelques fois ici. Hein.
Il n'y a pas de port ?
Non.
Les bateaux, on les échoue ?
Oui, c'est pour ça que vous n'avez que des dériveurs. Vous n'avez que des dériveurs, donc avec les quilles et puis les dérives relevables. Et donc, qui arrivent sur le sable, effectivement, qui échouent sur le sable, et qui se remettent sur la remorque, et le tracteur les reconduit à la base. Voilà. Effectivement, pour avoir un port, ici, le plus près, c'est Dunkerque, et puis après, c'est Newport. Les premiers ports. Newport en Belgique. Vous ne verrez pas beaucoup de personnes qui veulent faire de la voile, de la planche, qui sont à l'entrée du camp, ou qui veulent faire d'autres activités, ou se baigner, par exemple. Ne serait-ce que ça, aller sur la plage, bon, les gens viennent plus ici, donc c'est pas la même mentalité non plus. Là-bas,
ici,
c'est plus petit
au
jardin,
bord de la mer.
Voilà, ici au bord de
il
la mer.
Il faut dire qu'il y a 1,5 km entre la mer et l'entrée du camp.
Oui. Donc, je pense qu'à l'entrée, je pense que c'est un peu plus âgé et plus certainement plus tranquille aussi.
Donc, ouais. On pourrait peut-être même imaginer des gens qui viennent au camping du Perroquet et qui passent des semaines sans voir la mer.
Tout à fait.
C'est presque possible.
Tout à fait. Il y en a même qui sont pratiquement en bord de mer et qui vont pratiquement jamais à la plage. D'ailleurs, même sans le dire nous-mêmes, quand vous réservez un sauna, on vous demande si c'est pour le haut ou le bas.
Boum. Voilà. Ça va. La bonne direction déjà. Hein. Allez, on va prendre ici de nouveau la plume bleue dehors. Les trois doigts. Bien en plein. Un peu plus bas. Bien près de la lunette. Bien le long,
voilà.
Tout,
comme ça.
Levez le coude, bien le long de vos lunettes. Visez tout le long de la flèche, oui, et ouvrir les doigts quand vous êtes prêt. Hop. Voilà, un beau jaune, là, c'est magnifique.
Ah non, je ne vois pas avec le sol.
Hein ?
Je vois pas.
La sixième flèche qu'on tire et vous êtes, la sixième flèche qu'on tire et vous êtes dans le jaune, c'est magnifique.
Ça va où, ça ? Non.
Magnifique.
Il y a plein de camps, quand on rentre, c'est tout en randonnion. Il n'y a pas de mur de touya, il n'y a pas de mur de touya. C'est, d'ailleurs, sont taillés deux fois gratuitement par an par le patron. On n'a pas à s'en occuper. C'est dans le forfait, quoi.
Ça vous revient à combien ?
1800 euros par an pour mon épouse et puis moi et notre voiture. Et après, si... on prend un enfant ou une autre personne qu'on met au contrat, ça revient à 75 euros par an.
Et le mobilhome vous a coûté combien ?
En 2003, 37 000 euros. Plus la terrasse qui était de 1500 euros, je crois.
Les gens qui viennent ici régulièrement ont une préférence. Il y a deux baraques à frites qui, à mes yeux, aujourd'hui, sont encore absolument identiques. Mais les Brédunois, ou les Brédunois de l'été, temporaires, se divisent en deux. Ceux qui vont à la baraque à frites blanche, chez Irène, je crois elle s'appelle, et l'autre, et les autres qui vont à la baraque à frites en bois, qui s'appelle chez Norbert, je crois.
Et ils n'en changeront jamais.
Voilà. Et ceux qui vont chez Irène n'iront jamais chez Norbert, et ceux qui vont chez Norbert n'iront jamais chez Irène. Le monde se divise, vous voyez, à ce moment-là, au moment du choix des frites, il y a quelque chose de crucial.
À part le petit sourire ironique que vous pouvez avoir, Sandrine Rousseau, il y a un charme réel à ces endroits-là.
Ah oui, quand j'en parle, je reviens tout le temps à Brédune. Hein, donc, moi, je trouve que c'est un vrai charme. Et c'est un charme...
Je voudrais savoir en quoi il consiste.
C'est une ambiance. Quand on arrive ici, bon, déjà, il y a le camping du perroquet. Puis après, les gens sont très fiers de vous dire que c'est la première plage de France. Il y a une ambiance particulière que j'ai du mal à décrire, mais qui est vraiment la petite ville balnéaire faite pour tous. C'est beau, il y a énormément de bateaux qui passent, là, il y a une vue sur la mer incroyable. Ça a un charme. Puis il y a une espèce de petit relan, c'est ça, du début du XXe siècle, de l'histoire sociale.
À votre avis, quel est l'avenir de ces endroits-là ? Ces campings du Perroquet, la digue de Brédune,
l'avenir,
la plage de Malo. Attendu que le monde ouvrier existe de moins en moins.
Il existe de moins en moins, mais dans le Nord, il persiste quand même un peu. Non, je pense que ça a quand même un bel avenir encore devant lui. Moi, les étudiants que j'ai, ils n'ont pas honte du tout de ça. Parce que des fois, comme ça, les enfants ont un peu honte du mode de vie de leurs parents, mais pas du tout. C'est vraiment un lieu qui signifie beaucoup pour eux. C'est aussi des lieux où ils se retrouvent en famille. Parce que oui, ça aussi, c'est un peu typique. C'est qu'ici, il y a des grandes familles qui se retrouvent. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines vont tous au camping du Perroquet ou vont tous à la mer. Et du coup, c'est un lieu familial au sens très large du terme. Donc moi, là, je retrouve plein de mes étudiants. Et ils sont contents de venir là. Et ils continueront à venir là, je suis sûre, quand eux-mêmes seront parents. Parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un commencement de critique. Leur crise d'adolescence, elle ne se place pas là-dessus. Donc à mon avis, ça a un bel avenir encore. Alors le problème, c'est que là, ça s'est quand même un peu embourgeoisé avec la montée de l'immobilier. Donc il ne faudrait pas que ça... Brédune en version bourgeoise, ce serait quand même... ça perdrait de son charme.
Brédune, le camping du Perroquet. Avec Sandrine Rousseau, économiste et auteur de romans policiers, Christian Deleuil, cinéaste, Jean-Pierre Mortagne, journaliste sportif à France Bleu Nord, et les vacanciers du camping du Perroquet, Stéphane De Witt, Catherine Bourron, Olga et Jules Levins, Joël Sand, Jean-Pierre Mercier. Le film de Christian Deleuil, Brédune et nulle part ailleurs, est diffusé par l'association Heure Exquise à Mont-Saint-Barreul.
Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé.
Merci à Catherine Lannoy, Werner Lannoy et Éric Lannoy du camping du Perroquet, à Effie Pezzotta de France Bleu Nord, à Lucienne, Jean-Jacques De Kayser, Frédéric Delbar, Corinne Watkan, Paul Delvaux et Jean-Yves Vincent. Bibliographie et liens sur franceculture.com. Attaché de production, Christine Gedge et Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Frédéric Sordoyer. Mixage, Éric Boisset. Sur les docks, Nathalie Battus, Olivier Chaumel.
Le documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, podcast. Pour la pétanque, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, suite de l'heure du documentaire avec une histoire particulière sur les pas du peintre Faudacq.